إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous en sommes aujourd'hui à la 14e leçon du livre de l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, intitulé « Leçon importante pour toute la communauté ». Dans cette leçon, l'auteur rahimahullah ta'ala nous a exposé « Nawaqidul wudu », ce qui annule les ablutions, c'est-à-dire ce qui les rend vaines et t'oblige à les refaire. Et les savants ont dit que la base est que les ablutions ne sont pas annulées, et que l'on garde ces ablutions tant qu'il n'y a pas une preuve authentique nous démontrant que les ablutions sont annulées. Et ceci est une règle importante à garder en tête, inshallah ta'ala, car vous verrez qu'elle vous aidera à comprendre certains points que nous allons mentionner, inshallah ta'ala, dans la leçon d'aujourd'hui, et notamment en ce qui concerne les divergences au sujet de certains annulatifs. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Les annulatifs des ablutions sont au nombre de 6. Premièrement, ce qui sort des deux voies naturelles. » Donc ceci est une règle que l'on trouve dans beaucoup de livres de jurisprudence. Que tout ce qui sort des deux voies naturelles annule les ablutions. Et ce qui est visé par les deux voies naturelles, ce sont l'orifice arrière, le conduit des selles, et les parties intimes, le conduit de l'urine. Et ils ont mentionné comme preuve de cela la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Ma'ida, au verset 6, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala « Oja'a ahadum minkum min al-gha'it » ou que l'un d'entre vous vient de faire ses besoins. Donc ceci est une preuve que celui qui a fait ses besoins a perdu ses ablutions. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant ce qui annule les ablutions, les selles, l'urine et le sommeil. Et dans un autre hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, il a mentionné, sallallahu alayhi wa sallam, que nul ne sort de la prière jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou sente une odeur. Et ceci est une preuve concernant le vent. Ils se sont donc basés sur ces preuves pour dire que tout ce qui sort des deux voies naturelles rend obligatoire les ablutions, qu'ils soient sortis en petite ou en grande quantité. Donc à partir de là, ils ont dit l'urine, les selles, le vent, le sang, le mani, le liquide séminal, ou le madi, qui est le liquide pré-séminal, ou autre chose qui peut sortir des deux voies naturelles, tout ceci annule les ablutions. Mais en réalité, si tu médites sur les preuves qu'ils ont mentionnées, tu verras que ces preuves concernent explicitement certaines de ces choses seulement, comme les selles et l'urine qui sont venues très explicitement, également le vent, également le madi, il y a des preuves très claires à ce sujet, et ainsi de suite. Toutefois, il n'est pas juste d'en faire une règle générale. Et ce, car comme on a dit, la base est que les ablutions ne sont pas annulées, sauf si une preuve authentique vient indiquer que cette chose annule les ablutions. À titre d'exemple, il y a certaines choses qui peuvent sortir et qui n'annulent pas les ablutions. Par exemple, l'air qui sort des parties intimes de la femme. Ceci n'annule pas les ablutions, car cela ne sort pas d'un endroit qui est impur, et il n'y a aucune preuve indiquant que ceci annule les ablutions. Également, parmi les choses sur lesquelles nombre de personnes interrogent et qui sont très courantes chez les femmes, il y a ce que l'on appelle les pertes blanches, ou l'humidité des parties intimes de la femme. En ce qui concerne les pertes blanches et cette humidité, alors il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, pas même une parole d'un compagnon, ou d'un de leurs disciples, ou même d'un des grands imams des premiers siècles, nous disant que ceci annule les ablutions. Malgré que ceci était une chose courante chez les femmes, et ce depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, on a même fait un signe de la pureté pour la femme. En effet, elle a dit aux femmes des compagnons radiyallahu ta'ala anhum de ne pas se hâter, c'est-à-dire après leur menstrue, jusqu'à ce qu'elles voient le liquide blanc, c'est-à-dire ses pertes blanches. Donc ceci est une preuve explicite que ceci existait, était présent et connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, rien ne nous est rapporté à ce sujet concernant le fait que ces pertes annuleraient les ablutions. Et si celles-ci annuleraient les ablutions, alors il est impensable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit tué à ce sujet. Il l'aura enseigné à ses épouses radiyallahu ta'ala anhunna. Il l'aura enseigné à ses filles. Il l'aura enseigné aux femmes parmi les femmes des compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Malgré cela, rien ne nous est rapporté concernant le fait que ceci annulerait les ablutions. La seule chose sur laquelle se base ceux qui soutiennent que ceci annule les ablutions est la généralité de cette règle, que tout ce qui sort des deux voies naturelles annule les ablutions. Toutefois, cette règle nécessite une preuve, ou bien du Qur'an, ou bien de la Sunnah. Et en réalité, il n'y a aucune preuve qui démontre cela, comme l'a mentionné le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des savants contemporains qui ont soutenu que ceci n'annulait pas les ablutions. Et vous pouvez trouver à ce sujet certaines fatawas de l'éminent Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans lesquels il soutient que ceci annule les ablutions. Et il dit dans certaines de ses fatawas que si ceci est constant, c'est-à-dire que cela est présent sans interruption, alors que la femme n'a pas à faire les ablutions pour cela. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala a écrit une annotation sur la couverture d'une recherche d'une femme qui a écrit un article démontrant que ses pertes n'annulent pas les ablutions. Il a écrit sur la couverture de celui-ci, de sa main, rahimahullah ta'ala, je l'ai révisé, c'est-à-dire j'ai révisé cet article, et j'ai vu que ceci est la preuve la plus solide, démontrant que cette humidité n'annule pas les ablutions, étant donné que la base est que les ablutions ne sont pas annulées, si ce n'est avec une preuve. Et il apparaît que ceci est le dernier avis du Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. On a donc dit concernant ce premier annulatif qu'il concerne en réalité l'urine, les selles, le vent, le sang, le liquide séminal ou pré-séminal. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « Deuxièmement, l'impureté qui sort du corps à profusion, c'est-à-dire qui sort en grande quantité. » Il a donc soutenu, rahimahullah ta'ala, que si une impureté sort du corps et qu'elle sort en grande quantité, alors les ablutions sont annulées. À l'exemple du sang. Donc tout d'abord, il faut savoir que les savants ont divergé concernant le fait de savoir si le sang est impur ou non. Mais même en se basant sur l'avis que celui-ci est une impureté, alors nombre de savants, rahimahumullah ta'ala, ont soutenu que le fait que le sang sorte, ceci n'annule pas les ablutions, même s'il sort en grande quantité. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit « Ce qui est juste à ce sujet est que tout ce qui sort du corps n'annule pas les ablutions, ni le vomi, ni le sang, ni autre que cela, à l'exception de l'urine et des excréments. » Ceci est donc ce qu'a soutenu l'amin Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et il apparaît que ceci est l'avis prépondérant sur cette question, et ce, en l'absence de preuves, démontrant que ceci annulerait les ablutions. Troisièmement, il dit, rahimahullah ta'ala, la perte de raison par le sommeil ou autre. Donc le sommeil, comme vous l'avez entendu dans le hadith tout à l'heure, il fait partie des choses annulant les ablutions. Et les gens de science ont mentionné que ce qui est visé par le sommeil, c'est le sommeil profond, de sorte à ce que celui qui dort n'est plus conscient de ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire que s'il perd ses ablutions, il ne s'en rendrait pas compte. Il n'entend plus les personnes parler autour de lui, il n'entend plus ce qui se passe. Donc ce sommeil-là, il annule les ablutions. Quant au sommeil léger, comme la somnolence, le fait que tu sois assis, que tu fermes les yeux, tout en étant conscient de ce qui se passe autour de toi, alors ceci n'annule pas les ablutions, incha'Allah ta'ala. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, par le sommeil ou autre, c'est-à-dire parmi les autres choses qui peuvent faire perdre la raison à la personne, comme l'évanouissement, la perte de connaissance, ou alors la folie et l'ivresse. C'est-à-dire que si une personne s'évanouit, alors elle a perdu ses ablutions. Si une personne perd la raison, alors elle a perdu ses ablutions. Et si une personne est ivre, une ivresse lui ayant fait perdre la raison, alors celle-ci a également perdu les ablutions. Et certains savants ont même mentionné qu'il y avait unanimité à ce sujet. En effet, si dormir annule les ablutions, alors à plus forte raison, le fait de s'évanouir ou de perdre la raison par la folie ou par l'ivresse, car celui qui dort, il est possible de le réveiller, tandis que celui qui s'évanouit, ou celui qui est ivre, ou qui a perdu la raison, il n'est pas possible de le faire revenir à la raison, contrairement à celui qui dort, qu'il est possible de le réveiller. Donc, ceci annule d'autant plus les ablutions que le sommeil, car la perte de raison est plus effective. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, quatrièmement, toucher ses parties intimes, avant ou arrière, avec sa main, sans que rien ne soit interposé. Donc tout d'abord, sa parole sans que rien ne soit interposé, c'est-à-dire entre la main et les parties intimes. Dans le cas où il y aurait un tissu ou autre chose interposée entre la main et les parties intimes, dans ce cas-là, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit les ablutions ne sont pas annulées. Mais ce qui est visé ici, c'est le toucher direct, sans obstacle. La preuve à ce sujet est le hadith de Busra, fille de Safwan radiyallahu ta'ala anha, qui a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire « Celui qui touche ses parties intimes, alors qu'il fasse les ablutions. » Et ce hadith est un hadith authentique. Donc en se basant sur celui-ci, on peut dire que quiconque touche ses parties intimes sans que rien ne soit interposé, sans obstacle, sans tissu ni rien d'autre, alors dans ce cas-là, ces ablutions sont annulées. Toutefois, il y a un autre hadith rapporté à ce sujet. C'est le hadith de Talq ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit « Un homme a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si l'homme touche ses parties intimes, doit-il faire les ablutions ?» Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « Non. » Ce n'est qu'une partie de ton corps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est une partie de ton corps comme les autres. Il n'y a pas de différence entre toucher cette partie et toucher le bras, le pied, la jambe ou autre. Et ceci n'annule pas les ablutions. Donc comment réunir entre ce hadith et le hadith précédent dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de faire les ablutions? Certains savants ont dit que l'on réunit entre ces deux hadiths en disant qu'il est recommandé de faire les ablutions mais n'est pas obligatoire. Et d'autres on réunit en disant que ce qui est visé par cela, par l'ordre de faire les ablutions, c'est le toucher accompagné de désir. Donc si le toucher n'est pas accompagné de désir, alors dans ce cas-là, il n'annule pas les ablutions. D'après le hadith de Talq ibn Ali, ce n'est qu'une partie de ton corps. Mais si ce toucher est accompagné de désir, dans ce cas-là, il y a une différence entre ce membre et les autres membres du corps. Et on appliquera alors le premier hadith, celui qui touche ses parties intimes, qu'il fasse ses ablutions. Et telle est la manière de réunir entre ces deux hadiths. Donc en conclusion, on dira que celui qui touche ses parties intimes avec désir, celui-ci doit faire les ablutions. Ces ablutions sont annulées. Et celui qui les touche sans désir, comme par exemple en sortant de sa douche en s'essuyant, ou alors celui ou celle qui change un enfant ou qui nettoie un enfant en bas âge après qu'il ait fait ses besoins. Dans ce cas-là, les ablutions ne sont pas perdues. Car il est évident que les parents, lorsqu'ils changent leurs enfants ou qu'ils les nettoient, ceci n'est pas accompagné de désir. Donc les ablutions ne sont pas annulées. Et il suffit dans ce cas-là simplement de se nettoyer les mains si elles ont été touchées par une impureté. Mais il n'est pas obligatoire de faire les ablutions. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, cinquièmement, manger de la viande de chameau. Et ce d'après le hadith de Jabir ibn Samura, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit qu'un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Doit-on faire les ablutions après avoir mangé de la viande de mouton ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Si tu veux, fais les ablutions et si tu veux, ne les fais pas. » Il lui dit alors « Doit-on faire les ablutions pour la viande de chameau ?» Il lui dit « Oui, fais les ablutions pour la viande de chameau. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Ceci est donc une preuve explicite et authentique, nous indiquant que le fait de manger de la viande de chameau annule les ablutions. Et les gens de science ont mentionné que ceci est spécifique à la viande. Quant au fait de boire du lait de chamelle, ou de manger de la sauce dans laquelle a cuit la viande de chameau, sans manger de la viande, alors ceci n'annule pas les ablutions. Ce qui annule les ablutions est simplement le fait de manger cette viande. Et les croyants, qu'ils connaissent la sagesse ou non des législations, il leur incombe de s'y soumettre, de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de se soumettre à l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, il dit rahimahullah, l'apostasie. Qu'Allah nous en protège ainsi que les musulmans. Donc l'apostasie, elle annule les ablutions car elle annule l'ensemble des œuvres. Celui qui sort de l'islam, qui commet un des actes annulatifs de l'islam ou qui prononce une parole annulant l'islam et ainsi de suite, celui-ci, l'ensemble de ses œuvres sont annulées. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront certes vaines. Et entre dans la généralité de ses œuvres les ablutions. Donc celui qui est apostasie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, ses ablutions sont annulées. Donc, s'il se repent et entre en islam après cela, il lui incombe, pour la prière, de refaire ses ablutions. Après cela, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, remarque importante. Quant au lavage du mort, la vie authentique est qu'il n'annule pas les ablutions. C'est l'avis de la majorité des gens de science, en raison de l'absence de preuves démontrant cela. Donc ceci également fait partie des sujets sur lesquels les savants ont divergé concernant ce qui annule les ablutions. Est-ce que le fait de laver un mort annule les ablutions ou non? Le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit la vie authentique et que cela n'annule pas les ablutions. Pourquoi? Il nous dit, rahimahullah ta'ala, en raison de l'absence de preuves démontrant cela. Comme il n'y a pas de preuves, la base c'est quoi? C'est que les ablutions ne sont pas annulées. Et elles ne peuvent être annulées que s'il y a une preuve du Coran ou de la Sunna nous démontrant cela. Il dit ensuite, rahimahullah, toutefois, si la main du laveur touche les parties intimes du mort, sans que rien ne soit interposé, il devra obligatoirement faire des ablutions. Donc ici, on revient à ce que l'on a mentionné lors du point 4. Est-ce que toucher les parties intimes annule les ablutions ou non? On a dit que l'avis le plus juste, c'est que si cela est accompagné de désir, cela annule les ablutions, et si cela n'est pas accompagné de désir, cela n'annule pas les ablutions. Et on dira la même chose sur ce point-là. Il dit, rahimahullah, si la main du laveur touche les parties intimes du mort sans que rien ne soit interposé, il devra obligatoirement faire les ablutions. Mais si cela n'est pas accompagné de désir, alors il n'est pas obligatoire pour lui de faire les ablutions. Et s'il fait les ablutions, pour sortir de la divergence, alors il n'y a pas de gêne en cela. Puis le shir, rahimahullah ta'ala, attire notre attention sur un point important. Il dit, et il lui incombe de ne pas toucher les parties intimes du mort si ce n'est à travers une chose interposée, avec un tissu ou avec des gants ou autres, et de ne pas les toucher directement, et on reviendra sur cela dans la leçon 18, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, de même que le toucher de la femme n'annule en aucun cas les ablutions, que ce soit avec ou sans désir, selon l'avis le plus juste des gens de science, tant que rien ne sort de lui. Donc on voit que ceci fait également partie des questions sur lesquelles les savants ont divergé. Est-ce que toucher la femme annule les ablutions ou non? Et l'avis le plus juste est ce qu'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala. Que ce soit avec ou sans désir, les ablutions ne sont pas annulées. Il dit, rahimahullah, tant que rien ne sort de lui. C'est-à-dire que si le madi, le liquide pré-séminal, sort de la personne suite à ce toucher, alors dans ce cas-là, ces ablutions seront annulées. Pourquoi? En raison de la sortie du madi et non pas en raison du toucher. Mais ce qui a annulé les ablutions, c'est ce qui est sorti de lui. Et il dit, rahimahullah, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé certaines de ses femmes et a ensuite prié sans refaire les ablutions. Comme cela nous est rapporté authentiquement, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Puis il dit, rahimahullah, quant à la parole d'Allah, « O lamastumun nisa » ou si vous avez touché les femmes. Certains pourraient penser que ceci vise la perte des ablutions. Il dit, rahimahullah, ce verset concerne les rapports intimes, selon l'avis le plus juste des savants. C'est l'avis d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, ainsi que d'un groupe parmi les salafs et ceux venus après eux, et Allah est le garant de la réussite. En effet, nombreux parmi les salafs, comme Ali, radiyallahu ta'ala anhu, ou Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, ainsi que Ata, Al-Hassan al-Basri, Tawus, Al-Sha'bi, et bien d'autres, ont mentionné que ce qui est visé dans ce verset, ce sont les rapports intimes, et non pas le simple toucher. On voit donc à travers cela que le toucher de la femme n'annule en aucun cas les ablutions, que ce soit avec ou sans désir, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala. Ceci était donc quelques questions liées à cette leçon concernant ce qui annule les ablutions, et nous verrons dans le cours de demain, inshallah ta'ala, les nobles caractères desquels il est légiféré de se parer pour tout musulman. Wa sallallahumma wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.